Festival d'Avignon en direct avec Osmose Radio.
Osmose Radio ?
Osmose !
Osmose !
La web radio du off.
Punk is not dead. On entend ce gimmick depuis 40 ans déjà et effectivement, il n'est pas mort, même s'il est des fois un petit peu zombifié. Et je ne parle pas seulement pour les rockers qui se promènent sous la canicule avignonnaise qui nous débranche un petit peu le cerveau parfois. Et bien justement, Punk is not dead, notamment lors du festival Off 2022 dans la cité d'Avignon, où on peut retrouver une adaptation de la littérature de Virginie Despentes sur scène, sur une scène de théâtre avec le spectacle Un conte punk, dont je reçois les trois comédiens. Bonjour.
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 Salut.
Alors là, vous n'êtes pas en rythme pour des gens qui aiment la musique punk, mais bon, c'est pas grave.
Justement, c'est
le punk et le rythme. Bon,
on n'est pas académicien.
Contre-temps.
Sid Vicious était pas du tout dans le ton, il jouait pas juste, mais il était en rythme. Alors permettez-moi de vous contredire. Et ça aussi, c'est punk, nom de Dieu. Alors vous jouez au théâtre à l'Andalous à 21h05 jusqu'au 22 juillet. Vous êtes dans la cour intérieure du théâtre à l'Andalous. En fait, c'est un spectacle en plein air, peu ou prou, puisque dans ce petit écrin à deux pas de la rue, eh bien, on se trouve dans une ambiance un petit peu intime pour l'histoire d'un homme qui finalement, lui, se retrouve dans une ambiance un peu moins intime, puisqu'il est à la rue. Il s'agit de Vernon Subutex, c'est d'ailleurs le sous-titre de votre spectacle, Un conte punk, Vernon Subutex, top 1. Alors, on se connaît ce roman pour être une des œuvres majeures de Virginie Despentes. On peut résumer en fait à gros traits l'histoire, pour ceux qui ne connaîtraient pas forcément. C'est un roman sorti en 2015, le tome 1, qui a été suivi de deux autres tomes dans les années suivantes. Pourquoi avoir choisi d'adapter ce tome 1 en particulier, qui raconte un petit peu la décadence, la descente aux enfers de ce personnage de Vernon Subutex?
Moi j'ai découvert tous ces romans en 2017, l'année de la sortie du troisième, donc j'ai pu tout lire d'une traite. Quand même, ça s'appelle Vernon Subutex. Il nous semblait important de commencer par le commencement, si j'ose dire. On a travaillé avec toute la compagnie sur une forme beaucoup plus vaste qui traversait plusieurs tomes. Mais en fait, pour le Festival d'Avignon, nous sommes obligés de venir en équipe plus réduite, donc on s'est recentré sur ce qui pouvait donner aussi envie de rentrer dans cet univers-là et ce questionnement-là, et donc la découverte de ce personnage auquel on s'attache à ses errances et aux difficultés qu'il rencontre.
Très bien, mais c'est vrai qu'en même temps, une telle saga, si j'ose dire, et comédie humaine, puisqu'il y a aussi cet aspect-là, c'était un petit peu délicat de faire ça dans un spectacle d'une heure. Et par conséquent, mais j'ai oublié de vous présenter, pardonnez-moi, compagnie La Transversale, donc vous, Cédric Jonchière, vous incarnez ce personnage de Vernon Subutex, hein, Subutex référence évidemment au substitut qu'on donne au camé qui essaie de se sevrer. À vos côtés, il y a Yves Bauger, qui interprète un des personnages en contrepoint de ce Vernon. Et enfin, Alexandra de Cizancourt, qui incarne les personnages féminins, mais qui n'en sont pas moins savoureux, qui entoure un petit peu, qui constitue une comédie humaine, pour reprendre le thème de Balzac, autour de Vernon Subutex. Alors, vous avez été amené à découvrir ce roman. Vous travaillez dessus depuis longtemps, je crois, mais en même temps, pardonnez-moi, vous avez été un petit peu coiffé au poteau cette année 2022, puisque j'apprends que Thomas Ostermayer l'a adapté le mois dernier sur scène, mais dans une mise en scène peut-être un petit peu moins digeste que, enfin en tout cas, non c'est pas le bon terme, plus indigeste en tout cas que ce que vous avez fait vous, parce que c'est adapté en langue allemande, même si c'est joué sur une scène parisienne, surtitré en français. Et puis il y a eu la fameuse série TV aussi, qui avait mécontenté l'autrice. Et par conséquent, je me demandais comment vous avez eu envie d'adapter ce texte-là, parce que des textes intéressants de Virginie Despentes, il y en a d'autres.
Oui, alors il se trouve que j'ai découvert Virginie Despentes par ce texte-là, et que lorsque je l'ai lu, cette histoire qui avait trait à la musique, au rock'n'roll, à cette bande de copains explosés, mais qui essayaient de retrouver quelque chose en eux, de quelque chose de ce son qui les rassemblait, de leur révolte, moi ça m'a fait penser à mes expériences théâtrales, et notamment au groupe que j'avais rencontré en formation, et je me suis dit, il faut que je propose ce roman aux gens avec lesquels je travaille, je pense que c'est pour nous. C'est parfois pas toujours évident de parler du théâtre et de l'enthousiasme dans lequel on peut entrer avec cet art-là. La musique me semble beaucoup plus populaire, beaucoup plus abordable, beaucoup plus séduisante et beaucoup plus universelle. Et je me suis dit, du coup, on va pouvoir parler de questionnements centraux grâce à cette métaphore de la musique et du son qui est développée par Virginie Despentes. Et ensuite, bah, mes camarades ont fait le reste pour tirer d'autres thèmes et d'autres axes dans cette œuvre punk qui est complètement foisonnante, quoi.
Et on pensait que ça allait être facile d'adapter Virginie Despentes au théâtre. En fait, il s'est avéré que c'était une aventure assez complexe. C'est pour ça qu'on a mis du temps, en fait. Donc, on a commencé ce travail il y a 3 ans. Hein, la première de la grande forme a eu lieu en mars 2020, juste avant le premier confinement. Donc, on a vraiment longtemps travaillé pour trouver quel était le langage, comment on transpose ce roman sur la scène.
Très bien. D'ailleurs, c'est bien de parler d'Ostermayer, parce que je pense qu'Ostermayer, il s'est confronté à la difficulté qu'on s'est confronté nous. Il suffit de voir son travail. On voit qu'il est tombé, peut-être malgré lui, dans un certain piège, très narratif, face publique, au micro. C'est justement quand on a vu quelques extraits d'Ostermayer qu'on s'est dit, tiens, on voit qu'il est confronté aux mêmes difficultés. Et ça a été ça la tâche qu'on s'est donnée, quoi. Comment on va rendre tout ça actif et quitter cette narration. Même si on entend les nouvelles générations maintenant de mise en scène, il faut réintroduire du récit, réintroduire de la narration. Non, quand on fait ça au théâtre, quand même, ça reste quand même le lieu de l'action. Il ne faut pas l'oublier. La narration, on peut tout à fait lire, il n'y a pas de problème. On n'a pas besoin de metteur en scène pour lire une œuvre. Non, il faut faire le boulot. Et ce boulot, ça demande du temps. Nous, ça fait 2-3 ans. Et après, bon, ça, c'est la face story de l'histoire. Qu'est-ce que ça raconte Vernon Subutext ? Comme on disait tout à l'heure hors antenne, Stéphane, soit ça parle effectivement d'un espace de liberté qui disparaît pour la jeunesse, ou alors ça nous parle d'art. Il faut quand même la figure centrale de ce roman, c'est quand même cette star Alex Beach, qui est partie d'un groupe.
Alex Beach, voilà, est un personnage.
Alex Beach est un personnage du roman. C'est devenu une rock star et petit à petit, Jury s'est complètement détruit jusqu'au suicide. Et donc il laisse un testament où il s'est auto-interviewé pendant 3 heures, qu'il laisse à son pote Vernon, et c'est le contenu de ce testament, qui prend toute sa valeur dans le roman, à savoir que c'est un regard sur la création de son époque et d'aujourd'hui.
Un regard sur la création, et justement vous dites beaucoup le travail que vous avez fait pour l'adaptation de ce texte, en fait ça répond un petit peu au credo, si j'ose dire, de la compagnie La Transversale, dont vous êtes tous les trois issus, à savoir qu'on fait des mises en scène collectives, c'est le fruit d'une adaptation collective. Alors je sais pas s'il s'agit d'une écriture de plateau à proprement parler, mais en tout cas c'est il n'y a pas de metteur en scène attitré, j'ai bien compris, parmi vous?
Non, parce que nous on sort surtout Cédric et moi, Alessandra nous a rejoint également, mais là aussi cette formation, comme la partie étudiée en Pologne, mais elle pourra en parler mieux que moi. Mais Cédric et moi, on sort de l'ENSAT. On a été formés par Anatoly Vassiliev, qui est un Russe. Mmh. Et lui, nous a mis la tête à l'envers. C'est-à-dire qu'effectivement,
au lieu d'apprendre
la tête à
ça
l'envers, c'est-à-dire au lieu d'apprendre, quand même, la France a cette tradition de l'art déclamatoire. Ça reste quand même assez ancré. Moi-même qui ai fait la rue Blanche avant, je n'ai pas eu d'autre éducation que celle-ci. Même si elle a ses avantages aussi, je ne dis pas. Mais le fait de se confronter à une autre culture, quelle qu'elle soit, que ce soit, je ne sais pas, peu importe, c'est ce déplacement, cet écart, ça amène cet ailleurs. Et du coup, on peut, et nous a donné cette possibilité qu'à partir d'une œuvre, ce qui était plus important dans une œuvre, c'est d'en comprendre l'esprit plutôt que les mots. Voilà, avec ça, j'ai essayé de résumer. Donc, effectivement,
mais comment peut-on saisir l'esprit sans saisir les mots ?
Pardon ?
Je me permets de vous taquiner. Comment comprendre l'esprit si on ne fait pas l'usage des mots ?
En changeant les mots, en tournant autour, en les déformant, en les mâchant, parce qu'ils peuvent être trompeurs dans un premier temps. Et donc, vous parliez tout à l'heure d'écriture de plateau, c'est tout à fait ce qu'on a travaillé. Et l'aspect collectif, notamment de ce travail-là, tient peut-être aussi à cette œuvre-là, qui, encore une fois, parle éminemment du collectif, de ses difficultés, de comment il se construit, de comment il s'autodétruit, de comment il renaît de ses cendres. Je crois que c'était peut-être la seule façon possible, finalement, de travailler ce roman-là.
Très bien. Alors, l'adaptation, en fait, se fait sur une toute petite scène pour ce festival off. Et en fait, on se retrouve dans un espèce de boudoir qui tient, un bureau, en fait, dans lequel il y a des micros, des écrans, mais qui tient aussi d'un petit boudoir bordélique qui va servir de lieu pour toute l'intrigue, sachant que Vernon Subutext va squatter chez des amis par Mons et par Vaux jusqu'à se retrouver à la rue pour rester un petit peu dans l'histoire de ce tome 1. Hein. Et par conséquent, ben, en fait, vous, comme on dit vulgairement, vous éclatez le quatrième mur, puisque vous venez vous promener parmi le public. Et d'ailleurs, vous avez quelque chose qui m'a. Vous dites quelque chose dès le début du spectacle, qui moi m'a un petit peu mis la puce à l'oreille. Le bar est ouvert pendant le spectacle. En gros, vous touchez votre petit pourcentage, quoi.
On aimerait bien.
Non, mais c'est comme on parle de ces espaces de liberté qui ont été fermés, c'est une petite chose, mais c'est vrai que pouvoir boire une bière ou un jus de fruits pendant un spectacle, on n'a pas le droit. Fumer une clope, bon, on sait que dans les années 80, les plateaux télé, tout le monde fumait sa clope. Je ne dis pas que c'était mieux, mais c'est juste qu'on s'amuse à faire ça pour que cette soirée puisse être une soirée un peu libre où les gens aient envie de faire ce qu'ils veulent. C'est la fin de la journée, on n'en peut plus, il a fait chaud, bah là on peut se retrouver dans une cour ouverte, avec de la chance il y a une petite brise, on peut prendre un verre frais, voilà, c'était l'esprit qui va avec le conte punk.
Voilà, puisque le public est très très proche de la scène et peu ou prou, ben, la scène déborde un petit peu sur lui et c'est une manière, pourquoi pas, une manière sympathique de nous le signifier. Alors dès le début vous reprenez en même temps des astuces très classiques de la mise en scène. Je pense notamment à l'introduction du spectacle où vous êtes un peu un chœur à trois voix qui nous donne l'introduction de l'histoire de Vernon Subutex qui raconte à la troisième personne ce que devient ce garçon. Et... je ne sais pas si on peut parler d'un chœur antique, je ne sais pas ce qu'il en penserait lui, mais votre quatrième comparse, qui est à la guitare sur scène et qui vous donne un contrepoint musical de l'histoire qui se déroule sous nos yeux, lui réagit peut-être un peu comme un chœur antique en quelque sorte, mais toutes ces formes très classiques en fait, se mettent au service d'une histoire non seulement de décadence contemporaine, on a affaire un peu à un espèce de clochard céleste, comme aurait dit Jack Kerouac, sauf qu'on est bien dans la déprime des années 2010, et en même temps une histoire qui a un air de déjà-vu puisqu'elle ramène un petit peu, ne serait-ce que par la musique qui est diffusée et l'état d'esprit qui y règne, et par l'histoire des protagonistes, elle ramène un petit peu à la décadence telle qu'on la vivait dès la fin des années 70, les années punk. Décadence perçue, vécue comme une libération par ceux qui l'ont appréciée ou vécue comme une décadence, donc quelque chose de critiquement et de moralement condamnable par ceux qui en étaient spectateurs. Comment vous vous situez, vous, par rapport à tout ça? Est-ce que j'ai bien analysé votre façon de faire?
Non, juste pour revenir sur la table de départ avec les micros, c'est vrai qu'on était parti sur l'idée, sans vouloir la figurer complètement, mais de la radio libre, les convergences.
Avant l'existence des radios libres, puisqu'ils sont obligés de se planquer pour émettre.
Voilà, avant, quand les potes de Vernon, quand ils vont le retrouver dans les buts de Chaumont, ils vont former un groupe de potes autour de Vernon qui devient comme une sorte de nouveau gourou, prophète des temps modernes. Chaman. Et donc, ils vont organiser ces convergences un peu partout en France de manière secrète. Et on va apprendre que dans le futur, en 2100, c'est ça, ces groupes vont être persécutés. Persécutés pourquoi? Bah parce que ils cherchent à être vivants et ils cherchent à tirer un petit peu de plaisir de cette vie, ce qui nous est quand même souvent enlevé. Et donc voilà, l'idée de base de cette table, c'était la radio libre ou les groupes clandestins autour de ça.
Donc oui, qu'est-ce que c'est que la décadence, hein? Parce que Alex renomme justement ce moment en 2100 où il y a ces groupes qui essayent de rester vivants face à des civilisations qui ont tout anéanti, notamment où il n'y a plus le droit d'écouter la musique, etc. Alors, est-ce que la décadence, c'est le punk? Ou est-ce que c'est le monde dans lequel on vit?
L'un participe de l'autre, c'est...
C'est un dialogue perpétuel.
Il n'y aurait pas de punk sans le monde dans lequel on vit. Voilà. Alors, vous dites, enfin, dans cette œuvre de Virginie Despentes, on voit des gens qui sont un petit peu tenaillés par ce qu'on appelle vulgairement le démon de midi, ce qui est une étape de la vie, tout ce qui est plus classique et qu'ont connu des gens qui n'ont pas connu les années punk. Et en même temps, ils le vivent d'une manière speedée et qui donne lieu à cette comédie humaine dont je parlais tout à l'heure, avec tous les personnages que vous incarnez tous, notamment vous, Yves et Alexandra, au cours de ce périple, puisque ce sont toutes les anciennes connaissances de Vernon quand il était plus jeune, qu'il n'a pas vu depuis des années, mais avec lesquelles il est obligé de reprendre contact pour squatter chez eux quelques jours. Et en fait, il s'aperçoit qu'au bout de quelques années, ils ont totalement changé.
Oui, c'est le cas. On peut le dire qu'ils ont carrément changé. En fait, ce que j'aime beaucoup chez Despentes, c'est qu'elle, toujours dans la bouche de Olga, elle donne ça à Olga. Elle dit oui, voilà, on va assister à une génération de frustrés.
Olga qui est en fait une SDF qui rencontre
SDF
à la fin.
Qui vit, mais elle qui a fait le choix de ne plus travailler, même si son père était communiste, même si aujourd'hui, comme elle dit, les marxistes me font encore plus rire que les autres, parce que je pense que Despentes, elle a aussi un regard critique, et c'est ça que j'aime chez elle, c'est que, comme dit, tout le monde en prend pour son gras, c'est-à-dire qu'elle n'est pas, voilà, elle est pas dans la convention, quoi. Et justement, ces personnages, c'est ça, ils ont, comme pour le personnage qu'interprète Alexandra, qui a troqué
son
iroquoise pour un tailleur de pièces.
C'est Émilie, ça.
Émilie, avec le portrait de Frida Kahlo chez elle, etc. Je veux dire, c'est bien de cet espace-là dont on parle. À un moment donné, on est tous dans un peu là, voilà, on va reprendre ce thème de l'âge des possibles, tout est possible. Voilà, on est jeune, on ne sait pas encore quel chemin on va prendre. L'essentiel, c'est d'être armé, d'avoir un bon bagage, mais on ne sait pas encore quel chemin prendre. Et puis après, on s'aperçoit que quand même, il y a ce bagage culturel qui revient, je veux dire, comme quelque chose qu'on peut, des fois, on ne peut pas avoir, agir en force. Ou alors, il faut faire une rencontre. Et s'il n'y a pas cette rencontre, ou s'il n'y a pas un choc, qui soit, comme pour Alex Blitch, la rencontre avec Vernon à la boutique, c'est-à-dire quand il dit, dans son discours, il y avait ce son, on s'est dit, mais merde, on n'avait pas imaginé, pourtant ils ont écouté de la musique. Mais à un moment donné, il y a une rencontre. S'il n'y a pas cette rencontre, forcément, et moi je comprends, on rentre tous voilà, dans quelque chose de plus sociétal, de professionnel, et en mettant de côté en fait, toutes ces inspirations. Et tous ces personnages, toute cette galerie de personnages que Vernon va re-rencontrer dans tous ses vieux potes, c'est qu'ils ont tous renoncé. En pensant accéder à quelque chose d'un état plus heureux. Et en fait, c'est un état plus confortable, certes, comme dit Vernon.
Conformiste,
enfin,
même.
Ce qu'il nous faut, c'est un appartement comme ça, la meuf qui va avec, le frigidaire plein. Et c'est-à-dire, ils atteignent tous un confort, mais ils ont perdu l'étincelle. Ils ont perdu, effectivement, ces petits cailloux magiques dont parle Alex Blitch à la fin, où c'était peu de choses, pas économiquement vraiment très faibles, mais d'une puissance incroyable. Quoi. Ouais. Qui est en fait quelque chose de la création. Hein.
Et néanmoins, ça reste une comédie, hein, parce qu'on parle de ce renoncement, ouais, mais c'est là drôle, où Despentes est génial, c'est qu'avec ses punchlines acides, agressives, mais elle nous fait rire, parce qu'elle nous en nous faisant un peu mal, mais parce qu'elle nous renvoie au visage tous nos petits conformismes à nous. Enfin, on est vraiment dans le cadre classique de la comédie, peindre les mœurs des hommes
comme Molière.
S'en moquer pour éventuellement les soigner. Quoi.
Peindre les mœurs des hommes et aussi des femmes, pardonnez-moi, parce qu'Alexandra, vous incarnez parfois une galerie de personnages assez coquignolesques pour rester poli.
7 ou 8 personnages, je crois. Ouais.
D'ailleurs, tous les trois, là, Cédric, Yves et Alexandra, vous changez combien de fois pendant le spectacle?
Alors moi, ça compte pas. Je remets toujours le même costume. Alors, faut que je laisse parler mes camarades.
Vous êtes le seul qu'on voit à poil, quand même.
Voilà, parce que vous, Yves et Alexandra, vous changez de costume pour changer de personnage. Quant à Cédric, lui, il se couche. Alors, du coup, il se met en slibard. Et puis ensuite, il est viré. Donc, il remet son pantalon et son blouson. Il repart dans la rue. Et enfin, il retrouve un endroit où se poser, etc. Bref, vous êtes chaud pour faire un spectacle de striptease ou des feuillages burlesques l'an prochain, puisque j'ai cru comprendre que dans la compagnie à la transversale, vous aimiez bien les nouveaux défis.
Oui, complètement. Alors moi, le nu ne me fait pas peur.
C'est pas l'essentiel, mais c'est comme un peu les costumes, Stéphane. C'est-à-dire qu'effectivement, on s'en sert, c'est des accessoires, mais surtout, le choix a été fait en fonction des points de vue différents de tous ces personnages. Il y a cette frustration qui les rassemble, il y a bien sûr un échec, mais on voit bien entre Patrice, Xavier, tout ça, ça passe pas par la même révolte, quoi.
Bon, moi, j'ai découvert les perruques et franchement, je trouve ça super drôle. J'adore.
Non, et puis il y a quelque chose.
Ça vous évite d'avoir à vous faire une crête en vrai, voilà.
Il y a quelque chose qui s'accumule dans cette nudité de Vernon. Effectivement, vous décriviez, bah oui, au début, c'est pour se coucher chez lui, ça va, mais après, c'est pour se rhabiller parce que sinon, il est à la rue, hein, il est content, il arrive chez Émilie, il va enfin pouvoir reprendre une douche, voire plus si affinité, mais finalement, il faut se rhabiller parce qu'il est de retour. Et c'est ce sprint autour de nudité et rhabillé qui fait aussi qu'on accumule quelque chose par rapport à cette situation qui arrive de la rue, quoi. Alors, de façon assez drôle, hein, encore une fois, mais voilà, ça se rapproche, ce gouffre-là se rapproche.
Oui, allez. Et puis il semble aussi que pour le groupe, le corps de Cédric était intéressant pour incarner cette figure de Vernon. Si on prend une des phrases de Kiko, on voit tout de suite le mec, il a été nourri sur des cacahuètes dans des sets en carton. Il y avait cette fragilité du corps de Cédric qui amène aussi voilà, cette fragilité de ce personnage qui n'est pas dans... voilà, lui, il n'est pas dans l'anticipation. L'anticipation, pour les punks, c'est un truc complètement bourgeois. On laisse venir. C'est l'ici et maintenant. Il y a quelque chose de l'impromptu. Vraiment, là, on repense à Molière,
très théâtral,
on va parler. Et du théâtre et de l'action. Ouais. Il y a quelque chose de l'impromptu. C'est-à-dire que, effectivement, plus. Jamais on verra des enfants qui sont super bien armés. C'est un petit peu ce qu'on se disait tout à l'heure en antenne avec mes élèves. Il y a déjà. Tout est déjà pensé. On sort d'une école qu'on a déjà passé le 2 pour être prof. Je veux dire, ça y est, tout est.
Bah justement, vous faites référence à la jeunesse. Vous avez dit, vous m'avez confié quelque chose hors antenne tout à l'heure en préparant l'émission, qu'en fait les personnages qu'on voyait que vous incarniez en fait étaient tous des quinquas qui avaient changé radicalement par rapport aux années de leur jeunesse, mais le spectacle peu ou prou s'adressait surtout aux jeunes gens. Alors là j'ai un petit peu de mal à vous suivre, pardonnez-moi, parce que les jeunes gens, l'idée qu'ils se font des années 80, les années de jeunesse des personnages que vous incarnez, pour eux c'est Stranger Things. En fait ce qu'ils connaissent du punk, c'est quelques titres qu'ils ont entendus repris dans une émission de télé-réalité. Je vois peut-être le chose de manière un petit peu trop sombre, et peut-être que certains arrivent à acquérir une culture de ces années qu'ils n'ont pas connues pour finalement y découvrir des pépites, là, pour faire référence à ce que vous disiez tout à l'heure. Mais tout de même, comment pour une telle histoire pourrait toucher des jeunes gens qui n'ont connu que les années de Covid?
Alors déjà, juste pour répondre peut-être sur le plan de vue de la musique, c'est drôle, on en parlait avec un spectateur hier. Il y a peut-être eu un creux au niveau du punk et du rock dans les années 2000. Peut-être on l'avait trop entendu, mais là, moi aussi, comme Yves, avec des élèves, j'ai été très surpris, des lycéens, première terminale, ils écoutaient la même chose que moi à leur âge.
Alors,
je rentrais dans la salle avant le travail.
Ça fait plaisir, alors.
Je me retrouvais rajeuni de 20 ans. C'est-à-dire qu'il y a vraiment sans doute quelque chose de l'esprit de cette musique qui revient. Donc ça c'est juste pour répondre sur la matière sonore et du coup quand même aussi un peu ce dont ça parle. Vraisemblablement il y a une connexion avec ça qui est en train de revenir. Maintenant, Yves, c'est intéressant ce que tu dis souvent sur le.
Parce que vous-même vous êtes pédagogue.
Oui, parce que ce que je disais à Stéphane tout à l'heure, c'est-à-dire que parler d'une jeunesse, de la jeunesse d'aujourd'hui, voilà, c'est est-ce qu'on le fait en parlant d'elle ou est-ce qu'on le fait en parlant d'une autre, plus ancienne? Et cette distance, ça permettait de mettre à distance, donc du coup de pouvoir mieux peut-être penser à la sienne. Voilà, c'est ça que je disais tout à l'heure, mais qui est un processus, un principe connu. D'ailleurs, c'est pas, j'invente rien là. Mais j'ai été surpris parce que physiquement, quand on a monté le projet, on pensait qu'on allait s'adresser à une génération de mon âge, pas forcément celle d'aujourd'hui. Et c'est le retour des jeunes qui sont venus voir le spectacle, je me suis dit, tiens, c'est incroyable cette histoire.
D'accord,
comment ils le vivent
bien.
Et c'est eux-mêmes qui m'ont raconté en disant que mais c'est fou parce que ça, on l'entend de la part de nos parents, etc. etc. Et on voit bien que nous-mêmes, on est tout de suite, voilà, maintenant c'est comme le permis à points, le bac à points, il n'y a plus de temps à perdre, il faut qu'on arrive tout de suite à dès la troisième. Là, on entendait une jeune fille qui est avec nous, là, qui dort au gîte, dès la troisième, il faut déjà qu'on sache où on doit s'orienter. Enfin, c'est vrai que l'espace est
réduit
pour
point.
Eux, quoi.
Il y a peut-être aussi l'impact Virginie Despentes et la langue de Despentes, son humour politiquement incorrect, ses punchlines. Et peut-être il y a quelque chose pour la jeunesse qui donne un espace en fait, de pouvoir venir entendre des choses inentendables, qui ne sont pas correctes, qui sont inacceptables, qui peuvent être gênantes à écouter à côté de ses parents, par exemple. Et je pense qu'à cet endroit-là, il y a peut-être quelque chose.
Et merci beaucoup de me faire la transition d'ailleurs, puisque Virginie Despentes elle-même a forcément donné son accord à votre adaptation, mais l'a-t-elle vu, qu'en a-t-elle pensé? Est-il prévu de prendre contact avec elle?
Alors nous lui avons envoyé une petite carte postale récemment, et même là nous profitons encore de l'occasion pour lui dire « Virginie, viens !» On a une envie de te rencontrer absolument folle. À un moment où on répétait à Paris, on a essayé, on s'est promené au but de Chaumont, bon voilà. Donc voilà, nous sommes là, nous sommes en Avignon. On serait très très curieux d'avoir son avis sur ce travail, vraiment. Et puis, encore une fois, ça fait 3 ans qu'on baigne dans cette pensée, dans sa littérature, qu'on la malaxe, qu'on travaille ça. On n'a qu'une envie, c'est d'échanger en direct, quoi.
D'accord. Et c'est vrai qu'on te remercie parce que, en fait, c'est une pensée qui, je parle en mon nom, moi, me nourrit beaucoup depuis qu'on travaille sur Vernon Subutex, quoi. Donc, merci beaucoup sur ton regard pertinent sur notre France, notre Europe d'aujourd'hui et notre société.
Et merci aussi à vous, puisque chaque année, on a des adaptations du travail de Virginie Despentes dans la programmation du Festival OFF. Et ce n'est pas toujours très heureux comme résultat. Et vous avez réussi, à partir de ce travail, de ce roman, Vernon Subutex, à faire une adaptation ludique, drôle et puis en même temps incisive, en gardant la hargne de du trait de plume, en fait, de l'autrice, et en même temps en nous faisant passer un bon moment dans la cour du théâtre à l'Andalouse, je répète, à 21h05, chaque soir, jusqu'au 22 juillet. Voilà, chers amis, merci d'être venus, Cédric, Yves et Alexandra de Versailles au studio.
Merci.
Et puis on invite évidemment, pour vérifier que Punk is not dead, en venant un petit peu taquiner les comédiens sur scène, vous pouvez aller le vérifier dans les crins de verdure du théâtre à l'Andalouse, rue d'Anfou, jusqu'au 22 juillet dans le cadre du Festival OFF. Allez, bisous chers amis, et n'oubliez pas, Punk is not dead!